VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 6 décembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Ouverture de nouveaux sites pour les réfugiés en République démocratique du Congo, annonce le HCR.
Au Togo, annulation de la marche de jeudi, mais 3 nouvelles journées de mobilisation sont prévues par l'opposition.
Au Niger, grève de 72 heures des magistrats à partir d'aujourd'hui.
Et en Côte d'Ivoire, grève depuis hier des journalistes du célèbre quotidien Fraternité Matin.
Le président américain Donald Trump doit annoncer aujourd'hui la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a annoncé l'ouverture de 2 nouveaux sites pour les réfugiés en République démocratique du Congo. Le pays accueille déjà plus d'un demi-million de réfugiés. Des détails avec Abdourahman Dia.
Les nouveaux sites se trouvent à proximité de la ville de Baraka dans le sud Kivu et de Dungu dans le Haut Tuélé. Selon l'HCR, environ 90 000 civils originaires du Burundi, de la République centrafricaine et du Soudan du Sud sont arrivés en RDC au cours des 12 derniers mois, portant à plus d'un demi-million le nombre total de réfugiés dans le pays. L'organisation onusienne précise que la majorité des réfugiés vivent dans des zones rurales près des frontières. Le HCR souligne cependant que le manque de financement entrave gravement son programme dans le pays. En plus des réfugiés, quelques 4 millions de Congolais ont été déplacés à cause des nombreux conflits internes. Le HCR a demandé plus de 236 millions de dollars pour ses activités en République démocratique du Congo et affirme n'avoir reçu à ce jour que moins d'un quart de ce montant.
Quelques 2,7 millions de personnes vivant sur le continent africain ont été déplacées essentiellement par des conflits à l'intérieur de leur pays de janvier à fin juin, soit 15 000 Africains chaque jour. C'est ce qui ressort du rapport d'une ONG publié hier, plutôt aujourd'hui. Selon l'Observatoire des situations de déplacement interne, qui dépend du Conseil norvégien pour les réfugiés, la République démocratique du Congo, le Nigeria et le Soudan du Sud figurent régulièrement parmi les 5 pays les plus touchés par ce phénomène.
Au Togo, l'opposition a annulé sa marche de jeudi, mais appelle à 3 nouvelles journées de mobilisation contre le régime du président Faure Gnassingbé. Morgane Guiriec nous en dit plus.
Nous avons annulé notre marche de jeudi car nous souhaitons manifester 2 ou 3 jours d'affilée, a déclaré Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la coalition de 14 partis d'opposition qui organise des marches quasi hebdomadaires. Des manifestations qui rassemblent des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes depuis début septembre pour demander une limitation rétroactive du mandat présidentiel et le départ du président Faure Gnassingbé. Les opposants ont également dénoncé la stratégie de la terreur dans les villes du Nord, où une quinzaine de manifestants et 2 militaires ont été tués. Après des mois de mutisme, M. Gnassingbé a annoncé la tenue d'un dialogue avec l'opposition d'ici à quelques semaines. Mais l'opposition maintient la pression. Elle réclame des mesures d'apaisement, notamment la libération des personnes détenues, la levée de l'état de siège et le retour des militaires dans les casernes comme préalable à toute discussion.
Au Niger, les magistrats entament ce mercredi un mouvement de grève de 72 heures à l'appel de leur syndicat. Ils entendent protester ainsi contre la lenteur dans l'adoption du projet de statut révisé de la magistrature qu'ils attendent depuis 6 mois. Au micro de notre correspondant à Niamey, Abdourazak Idrissa, les explications d'Ayuba Hassan, secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger.
Cette grève, effectivement, ça fait suite à notre préavis qu'on avait déposé il y a 2 semaines de cela pour protester justement contre le comportement du gouvernement par rapport à notre projet de statut qu'on a eu à travers le texte. Donc, il y a plus de 6 mois de cela. Donc, on pensait que le gouvernement allait adopter donc ce texte-là dans les meilleurs délais. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ce texte-là n'est pas adopté. La risque qui a été trouvée, justement, c'est d'envoyer ce projet de texte au niveau du Conseil d'État pour un simple avis consultatif. Donc, nous, on a compris qu'effectivement, c'est pour gagner du temps et notre base nous accule, donc elle ne comprend pas que le BEN ne dit rien, alors même que ce statut-là est important, ça permettra quand même de corriger une injustice qui est faite au magistrat, notamment par rapport, par exemple, à la pension de retraite. Parce que le magistrat doit cotiser pendant 25 ans pour pouvoir donc prétendre à jour de sa pension de retraite. Contrairement aux fonctionnaires ordinaires, eux, il faut juste 15 ans. On a travaillé avec le ministre pendant 2 jours, on ne s'est pas entendu, parce que c'est qu'il n'y a rien de concret. Donc vraiment, la lutte continue, parce que c'est 72 heures de grève. Peut-être que pendant cette période, ils vont profiter pour nous appeler.
Ayuba Hassan, secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger.
En Côte d'Ivoire, ce sont les journalistes du quotidien national Fraternité Matin qui ont déclenché hier un mouvement de grève. Ils réclament le départ de la direction qu'ils accusent de mauvaise gestion. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
On exige le départ du directeur Venance Konan et de son adjoint Sakanoko Mohamed Lamine, a déclaré Marc Yevou, journaliste. Les manifestants protestent contre la gestion d'un plan de redressement du gouvernement. Il y a un plan de restructuration, un plan social validé par l'État. C'est tout à fait normal que les employés s'inquiètent et manifestent, a affirmé Venance Konan, directeur du groupe Fraternité Matin. Il a appelé à la discussion, précisant que parler de plan social, c'est aussi parler de licenciement. Les manifestants estiment que les employés ne doivent pas payer pour la mauvaise gestion de leur direction. D'après le gouvernement, cette restructuration va se faire par l'abandon d'une dette de 5,5 milliards de francs CFA du groupe vis-à-vis de l'État, des apports en numéraire de 3,6 milliards de francs CFA en subventions d'investissement et le financement d'un plan social de 1,4 milliard de francs CFA en 2018. Le gouvernement dit vouloir éviter la faillite du groupe Fraternité Matin, qui est confronté depuis une dizaine d'années à des comptes déséquilibrés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le président Donald Trump doit annoncer aujourd'hui que les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme la capitale d'Israël et envisagent de transférer dans cette ville leur ambassade actuellement à Tel Aviv. On s'attend à ce que la décision suscite une levée de boucliers à travers le monde arabe, Jean-Roger Bion.
Oui, mais selon la Maison-Blanche, le président Trump ne fait que reconnaître, je cite, une réalité historique et contemporaine. Pour préparer le terrain, M. Trump a appelé hier 5 leaders du Moyen-Orient, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président palestinien Mahmoud Abbas, le roi Abdullah de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi Salman d'Arabie Saoudite. Dans son communiqué, la Maison-Blanche donne très peu de détails sur ces conversations, se contentant de dire que les leaders ont aussi discuté de décisions potentielles sur Jérusalem et que M. Trump a réaffirmé son engagement en faveur du processus de paix entre Israël et les Palestiniens et l'importance du soutien à ces pourparlers. Des officiels de la Maison-Blanche ont précisé hier soir que le président Trump reconnaît que Jérusalem est non seulement la capitale d'Israël, mais a été le siège de son gouvernement depuis la fondation de l'État hébreu en 1948. Selon eux, le président américain donnera des ordres au département d'État pour qu'il commence à préparer le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv. Il souligne que ce processus prendra des années pour trouver un site, assurer le financement et construire un nouveau bâtiment. Entre-temps, M. Trump continuera de signer la dérogation annuelle, retardant la relocation. Pour leur part, les leaders arabes et musulmans ont averti que toute décision de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem pourrait enflammer les passions dans la région et détruire les efforts américains pour un accord de paix israélo-arabe.
La Maison-Blanche a énergiquement démenti hier que le procureur spécial enquêtant sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 ait demandé à la banque allemande Deutsche Bank des documents relatifs aux comptes du président Trump et des membres de sa famille. La porte-parole Sarah Huckabee Sanders a déclaré que la Maison-Blanche a vérifié cela avec la banque et d'autres sources et que ces informations sont complètement fausses. La Deutsche Bank semble cependant reconnaître avoir reçu une requête à ce sujet en déclarant qu'elle prend très au sérieux ses obligations légales et demeure disposée à coopérer avec les enquêtes autorisées sur cette affaire.
Les 28 pays de l'Union européenne ont adopté hier une liste noire de 17 paradis fiscaux exerçant leurs activités hors de leurs frontières. Une première pour l'Union européenne assortie de sanctions jugées cependant insuffisamment dissuasive par les ONG. Bahreïn, Barbade, Corée du Sud, Émirats Arabes Unis, Grenade, Guam, Îles Marshall, Macao, Mongolie, Namibie, les Palaos, Panama, Samoa américaine, Sainte-Lucie, Trinidad et Tobago et la Tunisie figurent sur cette liste décidée par les 28 ministres des Finances de l'UE lors d'une réunion à Bruxelles.
Enfin, l'ONU a mis en garde hier contre la hausse de la résistance aux antimicrobiens favorisée par le rejet dans l'environnement de médicaments et de certains produits chimiques qui constituent une menace sanitaire majeure. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco. Eric Manirakiza.
Le FMI va donner 13 milliards de francs CFA au Bénin pour appuyer son programme d'action gouvernementale. Ce décaissement constitue la seconde tranche d'un crédit de plus de 150 millions de dollars. La première a servi à la mise en œuvre des réformes du programme quinquennal. Toutefois, le FMI estime que le développement économique doit s'appuyer sur une plus grande mobilisation du financement domestique. La Banque mondiale finance au Togo de nouveaux programmes sociaux dans le cadre du projet de développement communautaire et des filets sociaux. Il s'agit d'un don de 24 milliards de francs CFA pour lutter contre le chômage, la pauvreté et pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ce n'est pas le cas du Niger. Les pratiques politiciennes handicapent les perspectives de développement du pays. La Banque mondiale indique que la recherche de profit, le clientélisme et l'impunité sont endémiques. Ces mots servent à l'ambition politique et aux tractations entre les élites. Enfin, en Angola, la Banque centrale a changé de politique monétaire. Cette décision vise à inverser la courbe de l'inflation qui prend une allure inquiétante. Durant les 12 derniers mois, l'inflation a grimpé à près de 29%.
Les sports à présent avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
En Ligue des Champions, défaite du PSG.
Incapable de produire un jeu de qualité, le Paris Saint-Germain s'est incliné logiquement pour la deuxième fois en trois jours au Bayern de Munich. Une défaite 3-1. Les Parisiens conservent malgré tout la première place du groupe B grâce à une meilleure différence de but. Anderlecht inscrit ses trois premiers points avec une victoire 1-0 sur la pelouse du Celtic Glasgow. L'Atlético Madrid est éliminé de cette Ligue des Champions après son match nul à Chelsea, 1-1. L'AS Rome en profite pour sortir en première position du groupe C après sa courte victoire contre Karabakh, 1-0. Manchester United a terminé juste devant le FC Bâle à la faveur de sa victoire obtenue contre le CSKA Moscou, 2-1. Pour la troisième fois en 7 ans, le club suisse va donc participer au huitième de finale. Le demi-finaliste de la Ligue Europa 2013 s'est imposé sur le terrain du Benfica Lisbonne 2-0. La Juventus de Turin a fait le boulot chez l'Olympiakos du Pirée, victoire 2-0. Le FC Barcelone, déjà qualifié, a battu le Sporting après un petit match 2-0.
Suite et fin de ce premier tour de la Ligue des Champions ce soir.
Dans le groupe E, Liverpool et Séville, qui occupent les deux premières places de ce groupe, maîtrisent leur sort pour accéder au huitième de finale. Le club anglais de Jürgen Klopp joue à domicile face au Spartak et n'a besoin que d'un match nul. Les Espagnols de Séville se rendent chez la modeste équipe slovène de Maribor, déjà éliminée. Dans le groupe F, le Shakhtar Donetsk et Naples sont en balance pour accompagner Manchester City. Le Shakhtar possède 3 points d'avance sur Naples et n'a besoin que d'un nul, mais il reçoit Manchester City qui aura l'occasion de boucler son carton plein. Quant au club italien de Naples, il doit compter sur une défaite du Shakhtar tout en s'imposant sur le terrain du Feyenoord qui jusqu'à présent a perdu tous ses matchs. Dans le groupe G, le club allemand de Leipzig affronte le leader invaincu, le Beşiktaş, déjà qualifié. Porto reçoit la lanterne rouge de Monaco. Enfin, dans le groupe H derrière Tottenham et le Real Madrid. Aux deux premières places du groupe, Dortmund se retrouve dans une incroyable situation de voir lutter à distance avec l'Apoel Nicosie pour être reversé en Europa League. Les deux clubs sont en effet à égalité de points et au match particulier, deux fois un match nul, 1-1. Le Borussia a une meilleure différence de but. Le club allemand, lui, va défier le Real Madrid tandis que l'équipe chypriote se rend à Tottenham.
Coupe CECAFA. Au Kenya,
le Rwanda qui bat Zanzibar 3-1, l'Éthiopie domine le Soudan du Sud 3-0. Enfin, match nul 0-0 entre le Kenya et la Libye.
Dopage, la Russie exclue des JO 2018.
Et oui, Idrissa, coup de tonnerre, la Russie a été suspendue des prochains Jeux d'hiver qui auront lieu en février prochain en Corée du Sud. Cette décision a été prise pour des raisons sportives. C'est une première dans l'histoire olympique. Elle intervient alors que la Russie est accusée d'avoir mis en place un système de dopage institutionnalisé de 2011 à 2015, en particulier lors des Jeux Olympiques d'hiver de 2014 à Sochi. Alaa Idrissa, on termine avec vous la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Phoenix Suns et Toronto Raptors 113-126 et Utah Jazz et Oklahoma City Thunder 94-100.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, vote à l'Assemblée nationale lundi dernier du projet de loi électorale en l'absence de l'opposition qui a boycotté ce projet qui prévoit entre autres une machine à voter et un seuil de représentativité pour les candidats aux législatives, ne fait pas l'unanimité même au sein de la majorité. Eddie Sango s'est entretenu avec un député de la famille politique du président Kabila qui s'apprête à saisir la Cour suprême pour bloquer ce projet. Henri Thomas, Lokondo.
L'article 118 de la loi que nous avons examinée hier arrête un seuil de représentativité de 1% pour toute l'étendue du territoire national. Cela veut dire que l'indépendant est exclu de la compétition. Or, justement, l'article 111 dit qu'un indépendant peut se présenter. Je me suis posé la question de savoir comment on peut calculer le seuil de représentativité d'un indépendant quand il n'est pas représenté sur toute l'étendue du territoire national.
Donc vous saisissez la Cour constitutionnelle contre ces projets de loi.
Je vais le faire. Si le Sénat vote ce projet de loi et que ce projet de loi doit être promulgué, mais en ce moment, il faut que j'introduise une requête pour que la Cour constitutionnelle nous dise si cet article est constitutionnel ou inconstitutionnel. Et je le fais sans état d'âme, sans parti pris, tout ce que vous voulez.
Vous êtes de la majorité présidentielle. Ce projet de loi a été voté en l'absence de l'opposition qui l'a boycotté. Est-ce qu'elle ne favorise pas la majorité présidentielle plutôt?
Être de la majorité de l'opposition ne vous donne pas le pouvoir de violer la constitution ou les lois de la République. Bien que, bon, je suis de la majorité, mais laisser passer cet impair-là, c'est pas crédible pour la République.
Le seuil des représentativités n'a pas été le seul point chaud lors de débat. Il y a aussi la machine à voter et d'autres points qui sont contestés.
J'ai été le tout premier pour faire l'amendement demandant le maintien de l'article 237-R qui dit qu'on ne puisse pas utiliser le vote électronique. Ben, voilà, maintenant, est-ce que la machine à voter est un vote électronique ou pas? C'est un autre débat. Mais l'essentiel est que ça a été retenu hier que, bon, on rétablit cet article-là.
À considérer ces votes et à considérer la vidéo qui a été divulguée par Jeune Afrique, est-ce que vous ne pensez pas que cela porte un discrédit aussi bien à la majorité qu'à la CENI parce que tout ça semble avoir été déjà préparé?
Bien avant ces échos sonores là, auxquels vous faites allusion, moi je considérais depuis longtemps que la machine à voter elle est inappropriée maintenant dans le contexte politique de notre pays. S'il faut avoir un retard de 10 jours, 20 jours, 30 jours, où est le problème?
C'était de Kinshasa, Henri Thomas Lokondo, député de la majorité présidentielle.
VOA Afrique, 24 sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
En République du Congo, le secrétaire général de Unis pour le Congo, Eloi Sikula, a appelé hier à Brazzaville à la libération de Paulin Makaya, un opposant condamné à 2 ans de prison pour trouble à l'ordre public et qui a purgé sa peine pour les militants de l'UPC. Il s'agit d'une détention illégale. Notre correspondant, Ngwala Ngosu.
Condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme, Paulin Makaya a purgé sa peine et devait être libre depuis la semaine dernière. Au niveau de Unis pour le Congo, sa formation politique, les militants sont impatients de le revoir. Eloi Sikula est le secrétaire général de l'UPC.
Paulin Makaya est ce même leader que ce peuple attend. jusqu'à aujourd'hui. Il est attendu qu'on le libère. Il est attendu par ce peuple et son SMLI. Qu'on nous donne seulement cette occasion de préparer sa sortie, vous allez comprendre que Paulin Makaya, c'est vraiment un leader. Vous savez que dans ce pays, pour mobiliser, il fallait l'argent. Mais Paulin Makaya disait toujours à ce peuple, à ce Congolais, non, il faut dire à l'homme politique que nous sommes, on travaille vous, pas en bois vous.
Depuis des semaines, l'Observatoire congolais des droits de l'homme mène une campagne de libération de tous les acteurs politiques en prison. Face au maintien de Paulin Makaya en cellule, Trésor Ndila Kende, le directeur exécutif de l'OCDH, dit préparer une vive réaction.
La crainte, c'est de voir Paulin Makaya continuer à rester inutilement en prison. Il n'y a pas que Paulin Makaya, il y a plusieurs détenus que nous qualifions de prisonniers politiques qui ont des autorisations de sortie, donc des ordonnances de mise en liberté, mais qui ne sont pas exécutées, qui continuent à être en prison. Donc il faut bien craindre que, malgré que Paulin Makaya arrive à la fin de sa peine, qu'il continue à rester en prison. Et si d'ici la semaine prochaine, il est toujours en prison, nous ne manquerons pas de s'exprimer comme on l'a fait dès le début de son interpellation.
Pour la juriste Monica Ngalula, le juge d'application des peines au tribunal de grande instance de Brazzaville était censé savoir que Paulin Makaya devait être libre depuis 6 jours. C'est un vice de procédure, a-t-elle expliqué.
Normalement, c'est le juge qui doit veiller à ce qu'il soit mis en liberté. Et c'est automatique. Quand tu purges ta peine, aussitôt, tu dois être relaxé. Ce n'est plus là, en ce moment-là, le procureur ou un juge d'instruction, mais c'est le juge de l'application des peines. Parce que lui, il veille sur les dossiers des condamnés qui sont placés à la maison d'arrêt. En ce moment-là, on parlera de vice de procédure. Et le condamné, normalement, il doit porter plainte contre les autorités judiciaires.
Depuis les arrestations dues aux actes politiques de 2015, Paulin Makaya est le seul leader politique qui a pu être jugé et condamné pour trouble à l'ordre public. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
En Guinée, la date des élections locales a été confirmée par un décret présidentiel. Le président Alpha Condé a convoqué hier les électeurs pour élire les maires des communes urbaines et rurales le 4 février prochain. Cette date est une proposition de la Commission électorale nationale indépendante pour les premières élections communales depuis l'arrivée au pouvoir du président Condé. De Conakry, les précisions de notre correspondant Zakaria Camara.
Le président de la République doit convoquer le corps électoral 60 jours avant le jour du scrutin selon la loi électorale guinéenne. Le décret que le président Condé a fait publier lundi et signé pas à la bonne date, révèle le juriste Mohamed Camara.
Quand vous comptabilisez, vous vous rendez compte qu'il y a 61 jours devant nous avant le jour du scrutin. Il faut qu'il y ait un décret rectificatif de ce premier décret 305 de manière à ce que l'on obéisse à la lettre et à l'esprit de la loi électorale.
Depuis 2005, la Guinée n'a pas organisé d'élections locales. La convocation du corps électoral rassure ces Guinéens rencontrés par la VO Afrique dans les rues de Conakry.
Je suis confiant. Je sais que vraiment les séances auront lieu puisque ça a beaucoup traîné. La façon dont je vois les choses se passer entre mouvance et opposition, je crois qu'il y a bon vent.
Je pense que c'est une bonne chose que le président arrive à convoquer le corps électoral parce qu'on en a tant attendu. Maintenant, Dieu merci.
J'ai pris Dieu que ça se passe dans les bonnes conditions, que la cohésion sociale soit maintenue. Nous sommes avant tous des Guinéens.
La mouvance présidentielle se réjouit de cette annonce et se dit prête à participer à ce rendez-vous électoral. Salou Bella est son porte-parole. Il promet une grande mobilisation d'électeurs.
Nous allons prodiguer des sages conseils à nos citoyens et militants pour que nous puissions faire une campagne civilisée et aller aux élections en attirant au maximum des électeurs en faveur de la mouvance présidentielle. Donc rassurez-vous que nous sommes très contents et très fiers, mais aussi très heureux et très engagés à aller à ces élections communales.
Plusieurs partis politiques étaient en réunion ce mardi. L'ancien Premier ministre Sidi Touré, président de l'Union des forces républicaines, parle de ces élections avec prudence.
Nous avons déjà tergiversé très longtemps avec ces élections de proximité. Je crois qu'il est temps d'aller de l'avant. On ne peut pas continuer à retarder les choses. Nous serons de ceux qui exigeront que la CENI ait les revenus nécessaires pour compléter ce processus électoral en cours.
Les dépôts des dossiers de candidature se feront pendant 15 jours à partir du 6 décembre et pour la première fois depuis plusieurs années en Guinée, les candidatures indépendantes sont possibles. Conakry, Zakaria Camara pour VO Afrique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Les Nations Unies travaillent avec les gouvernements du Cameroun, du Nigeria et du Tchad pour encourager les communautés à réintégrer les ex-combattants repentis de Boko Haram et les personnes qui étaient prises en otage par ce groupe. Mais l'initiative fait face à beaucoup de résistance. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Kolofata, dans le nord du Cameroun, repris ici par Solange Nyamulisa.
Près de 200 femmes et enfants vivent dans le camp de Fortine à Kolofata, dans le nord du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria. Ils disent être d'anciens combattants repentis de Boko Haram. Les femmes expliquent que la plupart d'entre elles ont été capturées et prises en otage dans la forêt des Sambisa, où elles affirment qu'elles servaient de cuisinières, soumises à des viols ou esclaves sexuels. Elles disent qu'elles ont été enrôlées de force comme combattantes, espionnes de Boko Haram. Elles affirment aussi que leurs fils ont appris à combattre et les filles sont devenues des kamikazes. Adji, 34 ans, mère de 3 enfants, ancienne combattante, confie qu'elles ont été libérées du camp d'entraînement de Boko Haram par les troupes du Cameroun, Tchad et du Nigeria qui avaient lancé une opération 3 semaines consécutives en mai 2017 dans la forêt de Sambisa. Elle a perdu sa fille pendant ces attaques. 2 autres de ses enfants étaient partis pour une mission kamikaze et ne sont jamais revenus. Elle-même assure être revenue à la maison, espérant trouver la paix, mais par contre, elle fait face à la violence des gens qui se méfient d'elle et que son cauchemar se poursuit.
Ils ont mis le feu à la maison, tout a brûlé. Heureusement, je n'étais pas à la maison. J'étais au marché. Je suis venue ici sans aucune pièce. Je n'avais que la copie de ma carte nationale d'identité.
Boko Haram recrute de milliers de jeunes du Nigeria, du Cameroun, du Tchad et du Niger. Mohamed Jamil, président de Jeunes musulmans nigériens, dit que les communautés devraient accepter les anciens combattants et arrêter de les stigmatiser. Il a déclaré que les militaires devraient arrêter de le persécuter comme s'ils étaient toujours combattants.
Les forces de l'ordre utilisent excessivement la force sur les gens à tel point que même les personnes innocentes ont été tuées à côté des combattants et les innocents ont l'impression que le gouvernement ne les soutient pas et donne plus de soutien aux extrémistes.
Les villageois disent que les anciens combattants et otages pourraient toujours être espions au service de Boko Haram. Mohamed Ibn Chambas, le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, estime que les craintes de la population sont fondées.
Ils ont réussi à repousser les Boko Haram. Sur le plan sécuritaire, il y a eu des succès remarquables. Et nous saluons tous les efforts fournis par les militaires. En même temps, essayons de résoudre aussi les problèmes de la gouvernance.
Le gouvernement du Cameroun et les Nations Unies ont distribué des semences, donné des chèvres et des moutons et des porcs à ces revenants et demande aux communautés de les accueillir.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum se met à l'heure du football ce jeudi. Le Sénégal, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie défendront les couleurs de l'Afrique à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Quelles sont leurs chances? Qui peut créer la surprise? Primes non payées, fédérations africaines mal préparées? Comment combler les lacunes notées du côté africain lors des derniers mondiaux? Pourquoi des élites du foot africain comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana n'ont pas réussi cette fois-ci à se qualifier? Et pourquoi y a-t-il si peu d'entraîneurs africains? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. C'est au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h. Temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.